Bonjour and welcome to our podcast series, Une ville, deux réalités, a meeting between Anglos and Francos 50 years after the Official Languages Act. Ce projet a été lancé dans le but de donner aux deux groupes linguistiques la possibilité d'échanger et d'exprimer leur point de vue sur la vie quotidienne afin de mieux comprendre et apprécier la dualité linguistique de la ville de Kingston et les Mille Îles. This podcast is presented in both official languages.
Bonjour et bienvenue à la série de balado Une ville, deux réalités. Rencontre entre les Francos et les Anglos 50 ans après la loi sur les langues officielles. Mon nom est Julie Brisson et je suis votre animatrice pour cette 7e balado diffusion. Aujourd'hui, notre thème est la santé mentale et en raison de la COVID-19, nous avons une version audio seulement. J'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue à mes invités. J'aimerais vous présenter premièrement Mme Chantal Blanchette, qui est formatrice du cours de premiers soins en santé mentale de la Commission de la santé mentale du Canada. Bonjour Chantal, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, s'il vous plaît?
Oui, bonjour Julie, bonjour tout le monde. Un gros merci à la CFOMI de nous accueillir et d'organiser ce podcast sur un sujet qui est tout à fait d'actualité, plus que jamais en ce moment. Donc, je suis vraiment très, très heureuse et honorée de participer à ce podcast-là. Alors, merci beaucoup. Moi, je suis donc formatrice depuis 2015 du cours de base, parce qu'il existe différents niveaux du cours de premiers soins en santé mentale. Et je fais partie aussi d'une équipe en ce moment. Nous avons, la Commission de la santé mentale a mis sur place une petite équipe au niveau national et nous offrons une petite formation à tous les travailleurs essentiels sur comment commencer la conversation sur la santé mentale, comment s'occuper de soi et tout ça. Alors, je suis très honorée de faire partie de cette équipe-là. Et j'ai un deuxième petit chapeau. Je travaille pour un programme fédéral en immigration francophone et c'est toujours vraiment intéressant pour moi de pouvoir faire des liens entre la santé mentale, justement, de nos immigrants. Donc, ça me permet de pouvoir travailler sur les deux chapeaux. C'est toujours bien intéressant. Alors, voilà.
Merci, Chantal. And my second guest is Sherry Lachine, who is the owner of Brown Mind, a company that focuses on strategies for mental health in workplace, communities, and for individuals. Welcome, Sherry. And please tell us a little bit about yourself.
Thank you. Merci, Julie. I am very happy to be here, and I echo Chantal's comments. A big thank you to ACFOMI for inviting me to speak with all of you. I do own a company called Broadmind, which we focus on essentially strategies for mental health. And what that means is we're providing the skills and knowledge to individuals, to communities and groups in the workplace. I, too, get the opportunity to teach mental health first aid, and I've taught in every province in Canada, including Nunavut. I think it's the right next step when it comes to educating people on mental health, what they can say, what they can do, and where they can go or guide people to. I have served for a number of years on the board of the Canadian Mental Health Association here in Kingston. A lot of changes in the mental health landscape happening here in Kingston and the area. And so maybe throughout our conversation, I'll be able to sprinkle in some of that. But I do want to just thank you for the invitation, and I so look forward to the conversation.
Thanks, Sherry. Depuis que nous pratiquons la distanciation sociale en raison de la pandémie COVID-19, certaines personnes ressentent de l'anxiété face à toutes les incertitudes. L'être humain étant une créature d'habitude, nous aimons la stabilité, la routine et le sentiment de contrôle sur notre environnement et nous éprouvons souvent du stress lorsque nos habitudes sont perturbées. Donc, ma première question aujourd'hui est donc adressée à Chantal. Qu'est-ce que la santé mentale et pourquoi c'est si important?
Bien, en fait, c'est que peut-être la première précision qu'on devrait faire, c'est qu'on a toujours eu l'habitude de séparer la santé physique de la santé mentale. Et maintenant, on comprend que l'être humain, en fait, on le savait déjà, mais l'être humain, c'est vraiment un tout. Et donc, maintenant, on doit voir tous les aspects de l'être humain ensemble et non séparés. Donc, la santé physique, la santé mentale, notre bien-être spirituel, psychologique, tout ça, c'est un tout, ça va ensemble. Donc, on n'a pas à faire de distinction, de différenciation entre ces deux-là. Donc, la santé mentale, c'est vraiment de trouver un équilibre entre ce que l'on... entre nos aspirations, si on peut dire, et nos actions. C'est de trouver un équilibre dans chacun des aspects de notre vie. C'est pas nécessairement de ne pas souffrir de troubles de santé mentale. On peut avoir un trouble de santé mentale et avoir une santé mentale très, très positive quand même. On aura la chance dans la conversation, Sherry et moi, de vous parler d'un tableau vraiment intéressant qui s'appelle le continuum de la santé mentale, dans lequel on peut vraiment voir les différentes étapes, parce que la santé mentale, c'est fluide. Et c'est fluide dans le temps et dans les émotions. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de statique. C'est pas je commence à avoir un trouble de santé mentale et ça dégrade ou quoi que ce soit. Ça peut vraiment varier dans le temps. Donc, ça, c'est une chose. Puis, pourquoi c'est si important? Bien, je pense que de poser la question, c'est quasiment d'y répondre, surtout en ce moment. Notre santé mentale, c'est important d'y prêter attention, puis de s'assurer qu'on va bien, puis qu'on a toutes les ressources. Et heureusement, aujourd'hui, avec le podcast, on pourra parler de toutes ces ressources-là. I'm sure Sherry, she has something to add to this explanation.
I just wanted to clap for you. I was like, oui, oui, c'est très, très bon. Bien fait, bien fait. Alors, j'ai compris quasiment tout que t'as dit. Oh, wow, mon français, j'ai de la misère avec mon français. Alors, I'm going to speak in English for the time being, although I do understand French to the best of my ability. So what can I add to what you've just said? I can't agree with you more that, you know, the physical and the mental, you know, they're intertwined. And we have been treating them as a very separate entity. As a matter of fact, in our communities, we have physical care buildings, healthcare buildings, and then we have mental healthcare buildings, right? But we are one body, one being, and I think we have to look at it more from a holistic perspective. And, you know, to add to that, I do like to go to the Public Health Agency of Canada's definition of mental health today, which I think is going to evolve over the next few years, decades. But right now, the way that we focus on mental health, and I really like the way they framed it, is it's the capacity for each and all of us to feel, think, and act in ways that enhance our ability to enjoy life and to deal with the challenges we face. Now, I did that from memory. I didn't read that off of anywhere. True story. There's no cheat, no cheat notes here. But I think that's really important because listen to it, feeling, thinking, and acting, right? All very intertwined with mental and physical. And it's how we enjoy life and deal with challenges. Because when do we encounter challenges? Every single day. Right?
Absolutely.
Yeah. And so we're in a new path right now. I've heard people call it we're in a new normal. We're in COVID-19 days, pandemic days, very different, challenging situation. And so being able to take care of our mental health in the moment, really important. But a lot of the articles that I'm reading right now really are pointing to a second wave, which is all focusing on taking care of our mental health post-pandemic. So I know we're going to get into that a little bit further. But I thought I would throw out that definition and help you sort of connect to some of the ways that we look at mental health today.
Oui, si vous me le permettez, je vais vous la lire en français.
Oui.
Donc, la santé mentale est la capacité que chacun d'entre nous avons de ressentir, de penser et d'agir de manière à améliorer notre aptitude à jouir de la vie et à relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Il s'agit d'un sentiment positif de bien-être émotionnel et spirituel qui respecte l'importance de la culture de l'équité, de la justice sociale, des interactions et de la dignité personnelle. Alors, voilà la définition officielle de la santé mentale par l'Agence de la santé publique.
I appreciate that. That makes good sense. Did you do that from memory or did you read it? And not that there's any judgment.
I just read it.
Well, and you know that second part that you read about this spiritual, and it's, you know, it ties into our social connections, culture, a whole bunch of different ways that we humans connect with other humans. The thing in that definition that I take a little bit of issue with, and maybe I need to think about it more, is the word positive. Because one of the misnomers, I think, when we talk about mental health is that we always have to be positive. And that's not true. And Chantal, you mentioned the mental health continuum, which is essentially green, yellow, orange, and red, which says that we can be green or healthy or red and doing not well. So I guess this is maybe a further conversation around how do we really take care of our mental health. But that word positive, I think, is a little maybe misleading because it's okay to be not okay as well.
Oui, exactement. C'est la phrase clé. It's okay not to be okay.
Yeah.
Surtout en ce moment. Puis je vais amener un petit point que je trouvais intéressant, puis peut-être que je pense que c'est un bon moment pour l'amener. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, dans le bas de cette pyramide-là, nous avons les besoins physiques et les besoins de sécurité. Et dans le haut de la pyramide complètement, c'est là que nous avons vraiment tout le en anglais, on dit le self-actualization. Je ne suis pas certaine comment on pourrait dire en français. Peut-être la réalisation de soi, quelque chose comme ça.
Oui.
Et puis, c'est vraiment important de comprendre qu'en ce moment, durant la pandémie, nous sommes vraiment à la base de nos besoins. Oui. En ce moment, nous sommes à nous assurer que nous sommes physiquement en sécurité, que nous avons une maison, que nous avons de la nourriture. On est vraiment dans les besoins de base en ce moment. Et il y a énormément de gens qui se mettent de la pression pour utiliser le temps de plus que nous avons en ce moment pour réaliser plein de choses, pour un peu aller chercher le haut de la pyramide. Alors que le contexte fait qu'on n'est pas dans le haut de la pyramide, on est dans le bas de la pyramide. Alors, il ne faut pas se donner trop de pression. Je parle à plein de gens qui disent « Oh mon Dieu, je devrais être en train d'apprendre une autre langue, je devrais être en train d'apprendre à jouer le piano, je devrais être en train de régler tous mes problèmes.
Oui. »
Maybe not.
Or bake sourdough bread. That's a big thing, right? The sourdough bread baking and all of that.
Yeah, exactly. So this is a hard time and we're really into the basic needs. And I think we need to give ourselves a break. Faut se donner un break. C'est comme, on peut-tu juste dealer avec la situation? Puis non, il y a des journées qu'on n'est pas OK. Puis il y a des journées qu'on l'est. Puis c'est correct comme ça.
Well, so well said. Absolutely. Bringing up Maslow's hierarchy of needs. Yeah, and we are at food, shelter, clothing, and you know what? We could probably, you and I, just chat for hours. I wonder if Julie wants to jump in and ask a question.
Don't mind me. No, but I really like two magic words for me that you ladies said is spirituality and holistic, because we often forget those two words. And for me, they're more and more important every day. And that's why my next question would have been to you, Sherry. Usually mental health for me is more than being stressed, sad, tired, or, you know, just losing interest, like you were saying previously. So could you tell us, like, what are some of the physical, psychological, and emotional manifestations so we can recognize what's going on in either ourselves or others?
Yeah, great question. It's interesting. The words mental health oftentimes conjure up images on the negative. People often think of problems and trauma and mood disorders or depression. But, you know, we can talk about mental health from the how do you do it in a good way? How do you take care of your mental health? And the words that I use a lot are things like mental hygiene and mental fitness. And so that I think is an important consideration that maybe we often err on the side of the negative. So bringing up the positive is really important. And then how do you recognize like the stressors? So yeah, if I'm getting that question right, the sort of, you know, how do we recognize in our bodies and in our minds that maybe we are getting impacted by the positive and the negative? I think that's the question. Oftentimes we ignore how we feel and think, and we tend to focus primarily on the physical, right? You can do more. You could do faster. You could do better, right? We may have to blow apart that sort of narrative, that cultural narrative, and say that, you know what, it's important that we start to tune into our bodies, tune into our minds, because they're inextricably interconnected. I have the opportunity to work with groups of people who are overcoming the impacts of trauma. And trauma is a significant stressor, could be physical and psychological stressors. And the interesting thing is that one of the ways that you can start taking care of your mental health is to first start off by taking care of your physical health. And also recognizing when your physical body, your nervous system, is reacting to a stressor. And so that requires knowledge, that requires skills. And my personal perspective, professional perspective, is that we need to learn that sooner rather than later. We need to learn that when we're little kids about how to listen to our bodies, listen to our minds and our feelings when we're getting impacted significantly by a short-term stressor or a long-term stressor. I don't know if that answered your question, but I felt the need to sort of throw all of that out there. And again,
That's good. I like it. And it just popped up another question in my mind.
Perfect.
Chantal, souvent les termes santé mentale et maladie mentale y engendrent la confusion puis sont utilisés pour désigner la même réalité. Mais pourtant, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Tu pourrais-tu nous éclairer, donc, c'est quoi la différence vraiment entre la santé mentale et une maladie mentale?
Ben oui, en fait, je vais même vous donner des petites définitions officielles. Donc, on vous a donné tantôt la définition de la santé mentale comme telle, OK? Puis peut-être aussi faire une petite allusion à la définition de la santé en général, qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, c'est la même chose pour la santé mentale. On n'est pas en... Tu sais, on dit tout le temps, moi, je suis pas malade, donc je suis en bonne santé, mais tu peux être en très bonne santé puis quand même avoir quelques petits problèmes. Tu peux être en très bonne santé mentale et quand même vivre quelques petits downs et des journées vraiment plus difficiles. Alors, si on regarde la définition d'un problème de santé mentale, lui, c'est le terme général qui va englober à la fois les troubles mentaux et les symptômes. Parce que comme je dis, on peut avoir seulement quelques symptômes comme on peut avoir vraiment un diagnostic. Et un trouble de santé mentale, et c'est vraiment important ici, je vais vous donner le mot-clé, c'est changement. Okay? Alors, un problème de santé mentale va entraîner des changements majeurs dans la manière de penser, dans l'état émotionnel et dans le comportement d'une personne. Et ces changements-là vont perturber sa capacité à travailler, à avoir des relations personnelles comme à l'habitude. Alors, la première chose qu'on veut vraiment observer quand on veut s'assurer que les gens autour de nous vont bien et que nous-mêmes, on va bien, ce sont les changements. Est-ce que habituellement je dors 4 heures par nuit et ça me convient et je fonctionne? Ça, c'est mon normal à moi. Et là, whoop, tout d'un coup, je me mets à dormir 8 heures. 8 heures, pour la normalité des gens, c'est ce qu'on devrait dormir. Mais pour cette personne-là, elle est habituée de dormir 4 heures. Alors là, ici, il y a un changement majeur. Est-ce que ça signifie quelque chose? C'est là qu'on peut commencer à investiguer. Est-ce que ça répond à ta question?
Oui, oui. Ouais, merci. Puis ça vient encore là justement d'apporter un autre questionnement dans ma tête, pour Sherry peut-être. Usually, people with mental health disorder are often hesitant to tell their family, friends, or employer of their struggle for fear of being labeled of having to face prejudice. Like, some people can tell you, like, snap out of it or toughen up. So what are the common myths about mental health, and what can we help to reduce those stigma?
Well, another great question. And stigma is the word, right? Stigma being that the fear of judgment, the misunderstanding, shame, guilt, all of those things that stop us from putting our hands up. You know, this conversation around mental health is important, and it's even more timely today with the additional uncertainty, disruption in our lives and whatnot. And so I think it's just really important that we recognize that we connect to our own mental health every step of the way. I sort of stumbled there. I was jotting down notes. Can you finish your question? Can you say the question again, Julie? You know, it's hard. I don't see your face.
No, I was just asking about the common myths about mental health and how can we help to reduce the stigma around mental health.
Absolutely. Sorry about that.
No, don't worry about it.
I'm having a day. So stigma itself can manifest in a variety of different ways, and maybe that's how we approach it in terms of trying to address it. You can self-stigmatize, meaning you can have the narrative in your head that you don't want to put your hand up because there's no way you're weak, lazy. There's no way that you can't do the same things that other people are doing. So you can actually self-stigmatize to stop yourself from doing things. It could also be societal. And again, like I mentioned at the beginning, this whole idea that we've got a physical healthcare system and a mental healthcare system, right? It's very much disjointed. It's normal to go and reach out for physical care. It doesn't seem normal to go out and reach for mental health care and services. And so that from a society, and then, you know, even from our own families, we have our own sort of mini cultures, our own mini narratives about how we operate as families. And so, you know, you'd want to almost address each one at a time. The greater societal one, we're doing that, I think, to the best of our ability by changing the conversation, having podcasts where we talk about mental fitness, mental hygiene, and the fact that it is equally important, but maybe often misunderstood. The self-stigma piece, I think, is something that we can all address. We can all address the fact that if it's, you know, like Chantal reiterated, it's okay to be not okay. It's okay to feel the feelings that you're having, and maybe you just don't have the knowledge and the skills to move through that safely. One of the things that we need as humans is to socially connect safely. And we're in a day and age where we've been told to socially distance. And so that's further adding to some of the stigma. So I do want to remove the social distance and add in physical distance. We're physically distancing, but we need to socially connect safely every step of the way. And that will blow apart the stigma, allowing people to put their hand up. And every interaction that we have, be it video conference, phone, or social media, is an opportunity to blow apart that stigma.
Yeah.
There. I got back to it.
Perfect. Chantal, est-ce que tu as ajouté quelque chose?
Oui, j'aimerais ajouter quelque chose parce que Sherry a mentionné quelque chose, parce que tu demandais c'est quoi un peu les mythes qu'on entend, le mythe de penser qu'une personne est paresseuse ou lâche. parce que tout d'un coup, elle n'a plus la motivation qu'elle avait. Ça, c'est un gros mythe. Puis il faut comprendre que les troubles de santé mentale, c'est pas une décision. C'est notre cerveau, on pourrait même l'appeler la santé du cerveau, la santé mentale, parce que c'est vraiment notre cerveau qui va faire des glitches, si on peut le dire comme ça, des interactions qui se font moins bien entre les neurones. En tout cas, c'est physiologique, c'est intéressant quand on fait des recherches là, pour... étudier le cerveau, comment que ça fonctionne, mais ce n'est pas une décision, un trouble de santé mentale. Donc, et ce n'est pas un signe de faiblesse. Et il y a énormément de gens qui ont ça dans la tête, puis je dois avouer humblement que c'était mon cas. Moi, j'ai un trouble de santé mentale. Je suis diagnostiquée avec une dépression chronique depuis de nombreuses années. Et... ça a été long pour moi de chercher de l'aide au départ parce que j'avais l'impression que j'étais faible, que c'était une faiblesse de caractère, que c'était ma personnalité, tout ça. Et c'est vraiment en faisant des recherches en allant chercher des connaissances que je me suis rendu compte d'un instant, là, c'est pas ça du tout, c'est pas ma personnalité problème. J'ai une mauvaise interaction avec ma sérotonine et c'est très chimique et j'ai dû plutôt me monter une belle trousse d'outils, puis on va en parler de ça, l'important d'avoir une trousse d'outils lorsqu'on a un trouble de santé mentale. Donc, la stigmatisation dont on parle, les préjugés que l'on fait envers nous-mêmes, c'est très gros. Puis c'est pour ça que, comme Sherry disait, le fait que ce matin, on fait justement un podcast, c'est tellement un bon pas vers l'avant pour augmenter les connaissances de tout le monde.
Oh, bravo! Bravo!
Merci. J'aime vraiment quand tu disais justement le problème que c'est dans le cerveau, dans le fond, je veux dire, c'est la chimie du cerveau. Puis, parce que j'ai déjà étudié un petit peu ça aussi parce que c'est un intérêt personnel. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider sur une base hebdomadaire, si je peux dire, justement pour aider notre sérotonine et notre cerveau à bien fonctionner. Parce que aussi, Sherry, if you want to talk too, I was lately reading an article on the Harvard Medical School website, yeah. And they say that they found multiple studies that have a correlation between our diet and impaired brain functions. So, yes. And depending how we eat, for me as a kind of a naturopath too, I like thinking about the diet often. So is it true that our diet can worsen the symptoms of our mood disorders such as depression?
Yes.
Yes.
Well done. Yeah, I think that the research is starting to catch up with what I think we know is that our physical bodies impact our lives significantly, and taking care of them is really important, which really includes what we use to fuel our bodies. So there's a lot of research out there. It's interesting. I have the opportunity to work with organizations, and we do workplace resilience and productivity. And the two components are sort of mental health and mental health strategies. But to add, one of the biggest components is nutrition. How do you actually feed your body and your mind? So I applaud you for doing the investigation, thinking about it. But I guess, I'll take some of the words from a holistic nutritionist that I get to work with, Devin Cosgrove, here in the community. She really likes to focus on what it is that we put in our bodies to actually help us think and feel better. It's an important concept, and our food industry may be going a little bit against that. There's a lot of sugar out there. There's a lot of stuff that we love because it lights us up, but it's not necessarily great for us. So thinking about that along the lines of mental health, taking care of your physical health could be a really good start to priming your mental health. like even going for a walk, like some of the physical movement, drinking water, making sure you're hydrated, and then trying hard to stay away from those things that have sugars and dyes and additives that may not do us all that our mental health and physical health very well. So yes. There's a lot of research coming out that's starting to point to that. Well, as the
saying goes, you are what you eat.
Yeah. I know. Why did we forget that? We forgot that, though.
Yeah. Donc, ça nous ramène à ce qu'on disait au départ. La santé physique et la santé mentale, c'est pas deux choses. C'est un tout. L'être humain est un tout. Et c'est ça. Ce qui se passe dans notre tête a une influence sur notre corps. Et ce qui se passe dans notre corps a une influence sur dans notre tête. Alors, définitivement. Comme tu parlais, est-ce qu'il y a des moyens pour justement, par exemple, la sérotonine? De plus en plus, les recherches démontrent que c'est vraiment l'activité physique qui fait une énorme différence. L'activité physique va justement pousser le cerveau à produire plus de sérotonine. Et le problème, c'est que quand on ne file pas, quand ça ne va pas bien, est-ce qu'on a le goût de faire de l'activité physique?
Yeah.
Pas vraiment. Alors, c'est de s'équiper de moyens pour pouvoir réussir à bouger un petit peu à chaque jour, malgré comment ce qu'on sent. Ça peut être de faire, par exemple, une entente avec quelqu'un dans sa famille ou un ami pour dire, est-ce qu'on peut prendre une entente qu'on va marcher ensemble 30 minutes par jour, puis s'il y a une journée que je file pas, que tu vas me pousser jusqu'à temps que je sorte dehors. Cette entente-là avec l'ami ou le membre de famille va faire partie de votre trousse de premiers soins pour vous occuper de vous-même.
Ben merci, j'aime ça, parce que là, on a parlé, c'est ça, de l'alimentation, puis l'activité physique, mais il y a quand même, chaque année, la santé mentale, on dit, les problèmes de santé mentale, ça touche quand même une personne sur cinq au Canada, indépendamment de l'âge. Fait que je veux dire, il y a certainement d'autres habitudes de vie et d'autres façons de penser ou d'agir qui pourraient nous influencer positivement ou négativement. Donc, ça serait quoi qu'on pourrait, à part l'alimentation puis l'activité physique, faire d'autres pour nous aider sur une base quotidienne?
Yeah. Julie, I'm glad you brought up that 1 in 5 because that number is bandied about quite a bit, and I think it's important we also recognize that those other 4 people are also either dealing with some potential challenges, but they're also potentially being impacted by that one person. So, you know, I think the mental health Canadian Mental Health Association nationwide has been pushing. You know what? Mental health is for the 5 in 5, right? Always. So I just wanted to highlight that. I'm like, yeah, we always say 1 in 5, which makes people think, oh, maybe it's a small number. No, actually, this is something that impacts all of us.
Yeah.
Oui, puis si je peux rajouter, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que 1 sur 5, c'est une statistique qu'on connaît. Dans le sens qu'il y a énormément de gens, puis ça revient à ce qu'on venait de discuter par rapport aux préjugés, il y a énormément de gens qui n'iront pas chercher de l'aide, mais qui souffrent quand même.
Oui.
Donc, ces gens-là ne font pas partie des statistiques. Alors, comme Sherry vient de dire, il y a des bonnes chances que le nombre, malheureusement, soit beaucoup plus grand que le 1 sur 5.
Well, and we humans are so interesting because we will cope, right? We'll be part of that 4 in 5 coping until we can't cope anymore. And so that's why I love the words mental hygiene and mental fitness, because it's an ongoing, you know, daily use of the skills that we have to make sure that we feel, think, and act in ways that help us enjoy our lives. You made me also think about, you know, you're talking about the physical part, right? The nutrition part, which is so important. I've been reading a lot and watching a lot of videos lately. I'm just going to share with you that in my sheltering in place, I'm watching a lot of videos. And they're pointing to a lot of unmet human needs, right, that impact our mental health, which then may also impact our physical health. And those unmet human needs are things like feeling safe, feeling loved, feeling seen, heard, and understood. And so these are really important aspects that extend past just, you know, adulthood and daily life. We need to make sure that our children feel safe, you know, unconditionally supported and loved, not free of, but able to manage potentially fear, uncertainty, and challenges. So there are some programs actually here in the community that are launching online mental health resiliency programs. One of them is called, and I'm going to plug this one, Kids Get Stressed Too, that the Kingston Community Health Centers has just taken on. And they're teaching children how to be mentally and physically resilient. And I think it is time that we teach kids how to be resilient. So a lot of stuff there, but those unmet human needs and how do we connect safely with each other, I think this is the next step. How do we say things to support each other? How do we create safe environments? Those, I think, are the next most important steps. But let's not forget that physical and mental foundation. So I'm glad we started there.
Yeah. Puis je trouve ça intéressant ce que tu viens de mentionner, Sherry, parce que souvent les gens vont penser que la santé mentale, ça ne regarde que les adultes, alors que maintenant les recherches démontrent que non, la santé mentale. Et encore là, ça devient logique quand on dit ben c'est un tout avec la santé physique. C'est dès la naissance. Et il y a même, j'ai écouté un superbe vidéo qui expliquait qu'ils sont capables maintenant de reconnaître des troubles de santé mentale chez le bébé ou des symptômes, en fait, je devrais dire, et qui partiraient de la grossesse. En tout cas, c'est vraiment intéressant comme avenue, mais tout ça pour dire que, exactement, la santé mentale, c'est chez nos tout-petits, ce sont chez nos adolescents. Alors, il faut leur apprendre les trucs, la résilience et leur monter leur petite trousse d'outils là, dès le plus bas âge. Absolument, c'est vraiment important et ça va faire qu'ils vont être des adultes vraiment mieux équipés pour faire face aux différentes difficultés de la vie.
I love that. I love that you use trousse d'outils. Is that so like your toolbox? I love that. yeah, love it. And I'll just add then this is a freebie biohack, so a way that you can support yourself through any amount of stress. And it's one of the elements of that children's program. It's very simple, but it's breathing. It's learning how to breathe in a deep and significant way that tells your nervous system that you're okay. And we need that when we start to, we are emotional beings and our emotions will kick in. And oftentimes logic goes out the window. It's just the way that we're constructed. And so this breath piece, even just teaching our young ones and us how to tap into telling your nervous system, you're okay. You don't have to be in fight, flight or freeze all the time. So there it's a freebie biohack for everybody. Breath.
Merci d'apporter ça comme concept. La cohérence cardiaque, je passe mon temps à l'enseigner aussi dans mes ateliers parce que les gens ont souvent énormément de difficultés à exprimer leurs émotions. Puis souvent dans notre société, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est comme si les émotions, il ne fallait pas les exprimer, comme si c'était un petit peu, dans le fond, tabou, on n'a pas le droit de démontrer de la colère en public, puis tu sais, c'est comme « vis ça chez toi ». Mais tu peux pas, c'est important de les laisser sortir puis de les exprimer, mais c'est ça, souvent on le fait pas. Donc c'est une des techniques justement que j'apprends dans mes ateliers sur les émotions, à faire justement des techniques de respiration, comme tu viens de dire, pour essayer de libérer justement aussi nos émotions, parce que, comme on disait tantôt, tout est relié. Puis c'est une autre chose justement que je montre toujours à ma fille qui est très introvertie, Donc, ma question maintenant est pour vous. Concrètement, comment qu'on peut faire justement pour aider nos enfants qui pourraient éprouver justement des problèmes de santé mentale? Parce que j'ai même déjà entendu un reportage à Radio-Canada que de plus en plus de jeunes au primaire faisaient de l'anxiété puis de l'angoisse à cause de la performance à l'école.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à nos enfants, justement, à leur expliquer que c'est correct d'avoir des émotions et de les vivre. C'est correct de ne pas toujours se sentir bien. Il faut leur apprendre la respiration. Il faut leur apprendre à se concentrer sur le moment présent. Dans le fond, le stress, c'est toujours de se projeter dans le futur. Et là, c'est là qu'on a toutes sortes d'inquiétudes. Puis, oh mon Dieu, est-ce qu'il va m'arriver ça? Est-ce qu'il va arriver ça? Est-ce qu'il va arriver ça? Tandis que quand on prend l'habitude de vraiment se concentrer sur le moment présent, vous savez, tout le mouvement du mindfulness qu'il y a en ce moment, c'est juste ça. C'est de se grounder puis de dire, OK, en ce moment, tout de suite là, quelle est l'émotion que je vis? Qu'est-ce que je peux contrôler dans la situation? Qu'est-ce que je peux changer pour améliorer les choses? On peut apprendre ça à nos enfants. Et l'autre petit point que je voulais amener, c'est au niveau de la gratitude. Parce que c'est démontré aussi que lorsque l'on prend le temps de se concentrer sur ce qui va bien et sur les choses auxquels on a accès, quand on a de la reconnaissance et de la gratitude, ça fait une grande différence. Donc, ça vient un peu chercher notre petit côté spirituel, holistique qu'on a parlé dans tout le concept de la santé mentale dès le début. La gratitude, elle est importante. Donc, ça aussi, ça nous permet au cerveau de revenir au moment présent puis de dire, ah oui, j'ai un toit, j'ai de la nourriture, j'ai un emploi, ces choses-là. « Oh, il va falloir que j'aille chercher mon fil de laptop. Je vais perdre la batterie.
» Well, you're doing that, Chantal, then I'll jump in.
Merci, Sherry.
I have great concern for our young ones. Not just during these pandemic days, but the whole idea that they've got a lot of additional information, potential stressors, challenges that come their way through technology, and that needing to be, I'm going to put in quotation, successful, right, in their schoolwork or other types of work. So I do have a lot of concern for our young ones, and I really feel that they do need the skills and knowledge to be able to move through these emotions and these stressors. What can we do to support them going forward? Everything that Chantal said, yes. And then I would also add, and I'm a mother of two adult children, and they'll always be my children, no matter what their ages are. And I found that was the hardest, most rewarding, but the hardest job I've ever done. And it still continues on today in terms of trying to pass on some of the knowledge and the skills that I'm learning. I don't know if you guys have ever tried to just, give information to your kids, but sometimes it doesn't... It doesn't land well.
On a une expression en français, Sherry, qui dit « On n'est jamais prophète dans son propre pays.
» Yeah, good.
So not c'est correct quand ça vient des autres, mais quand ça vient de papa et maman, là...
I know, exactly. So it's hard. So you have to, you do have to sort of lead by example to the best of your ability. And I've only come to become a mental health professional in the past 7 years. I was a military engineer before, and I was a stressed out individual. And so I'm trying to help them learn new skills and tools. There, that was full confession time. One thing that I did read when I came across my studies in a master's of applied psychology was this humanistic perspective of psychology. And one concept landed on me, and I've never let it go, even 7 years later. And I know all those who have studied psychology are probably connected to this concept, but I've been trying to put it in action to the best of my ability, is the concept of unconditional positive regard. The fact that each and every one of us need at least one person in our lives that show us unconditional support or love, no matter how bad it gets, and we need to know that they're going to always be there. And I don't know what that is in French, Chantal. Do you know, like, unconditional positive regard? C'est quoi ça en français? I don't know. I could Google Translate while we're talking. But the idea behind the concept, though, is that we are seen, heard, and understood, and we know that there's at least one person in our lives that supports us. Even if we get into a lot of trouble, they'll be there. And so I'll throw that out in terms of, you know, how do we support people through these challenging times and other times, especially our young ones? I mean, that can manifest in, instead of unloading the dishwasher while we're having a conversation with my 10-year-old, I stop unloading the dishwasher and I give the time and attention to my 10-year-old. I put my phone away when we're talking, you know, when we're spending time connecting. So all of these moments where you're saying, you are so important to me and I'm going to give you my undivided time and attention. So there, that's just one thing I was thinking of.
Ben, si on reste toujours par rapport aux enfants puis à nos adolescents aussi, je pense que c'est vraiment important dans tout le concept de la résilience de leur apprendre que parfois il faut tout simplement accepter la situation et laisser aller les choses. Have faith and let it be. Donc, c'est ça aussi une partie de la résilience, c'est d'être capable de faire un lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut enseigner à nos enfants et à nos adolescents. Parce que justement, on vit dans une société tellement stressante, une société de performance, une société où il faut porter 10 000 chapeaux puis être le meilleur à chacun des rôles que l'on a. Et c'est pas réaliste. Puis je pense que toute la situation de la pandémie est en train de faire réaliser ça à beaucoup de gens. Hein. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui disent « Sais-tu que ça me tente pas du tout là, de retourner à ma vie folle que j'avais là, avant le COVID? Et puis maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit pas vraiment ça? » Donc, c'est ça. Il faut apprendre que parfois, il faut simplement accepter et laisser aller la vie. Donner du temps au temps.
Oui. J'aime beaucoup ton mot « résilience » et « lâcher prise » parce que souvent, c'est des mots qu'on a de la misère. Hein?
Oui.
Oh, c'est facile à dire, mais pas facile à faire, comme pour la prière de la sérénité. Hein?
C'est ça, exactement. Mais le cerveau, c'est un muscle hein, qu'on peut entraîner. Et vous savez, une petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, la petite voix négative là, qui va nous dire « Mais t'es donc ben pas bonne, puis reste couchée. » Tu sais, la petite voix plate, là. Ben bizarrement, cette petite voix-là, on est capable de l'entraîner à arrêter de nous dire des choses négatives. Mais c'est un travail de tous les jours. Donc, c'est vraiment de se trouver des techniques pour, dès qu'on entend cette petite voix-là, pour la bloquer et dire « Non, 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 moi, je ne t'écoute pas. » Et parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Ne croyez pas tout ce que vous pensez. »
Oui. I love that you brought up that squirting negative voice in your head that we all have. We can do something about it. Hopefully, yes. Right? Is I guess, there's actually cognitive behavioral therapy. I don't en français, c'est quoi? I've got my Google Translate.
La thérapie cognitivo-comportementale.
Oui. Et c'est une façon. Look, I almost started speaking French. To challenge those thoughts, to help you sort of redirect and make sure that it doesn't further encourage you towards the negative. And you can do that on your own. You can do that with others in terms of just challenging, you know, the thoughts and the perspective that you have. I think it's so important because we are our worst. I was going to say nightmares. We are so bad to ourselves. We're so mean to ourselves. We tell ourselves things that we would never tell a friend. And so recognizing, you know, just sort of noticing and taking those moments to say, wow, where did that come from? And, you know, and try to devalue it or invalidate it. I love that you said it, Chantal. Really good.
We are our worst enemy.
Yeah.
Exactement. On est notre pire ennemi, ça, c'est vraiment. Mais c'est ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Moi, c'est le défi de ma vie. Il y a quelques années, j'ai vraiment fait une réalisation que j'avais un certain contrôle sur cette voie-là, que j'étais capable de changer mon mindset, et j'y travaille à tous les jours. Puis il y a des jours que la petite voie plate apprend le dessus, puis ces journées-là, ben sans nécessairement l'écouter, des fois, ben, je l'observe et j'accepte que cette journée-là, elle prend plus de place que je le voudrais. Mais c'est un travail de tous les jours, mais c'est faisable.
Oui, je le sais, je suis dans ton bateau aussi, tous les jours aussi.
I think we should be very gentle with ourselves because, and it's hard to be, I mean, sorry, it's easy to be hard on ourselves, but to be gentle with ourselves because I do get the sense, you know, based on a lot of the stuff that I read and the conversations I get to have with people, that we have a negative bias. We actually are constructed to protect ourselves, and that sort of manifests itself negatively in our heads. And so just being, you know, again, gentle and saying, you know what, it's the squirts, the negative thoughts are basically trying to protect me and it's not trying to dig me into a deeper hole. And I think I'd like to extend that conversation to how we react to other people. As much as we want to support ourselves in terms of managing or mindfully observing these thoughts, we also should recognize that negative bias and stuff extends to how we judge other people. And so this idea of being non-judgmental is really hard for us. But it's a key condition for safety with other people. And so, you know, and when Chantal and I get to teach mental health first aid, and even this crisis response that the Mental Health Commission has out there right now, we focus on this concept of trying to be as non-judgmental as we can. We withhold or reserve that judgment so we can create safety for people to actually share where they are and how they're feeling. So I just want to extend the thoughts in your head further to how we sort of interrelate with other people.
Oui, exactement, parce que quand on juge les autres, je veux dire, les gens le savent, admettons que si moi je juge tout le temps, tout le monde que je rencontre et que je vois, je veux dire, ça t'inspirera pas confiance, toi, à venir me parler si tu sais que je suis une personne qui juge. Donc, c'est tout est relié, en tout cas, dans mon monde à moi, comme on dit.
Absolument, ben oui, tout est relié, puis quand que justement on veut, tu sais, bon, comme tu sais, en ce moment, dans cette pandémie-là, tu sais, c'est important de vérifier si nos proches vont bien, si... Et ce qu'on veut faire, c'est comme créer une espèce de périmètre de sécurité. C'est-à-dire que dans la relation que tu as avec la personne, justement, si elle sent que tu n'es pas là pour la juger, si elle sent que tu es capable de l'écouter simplement, l'écoute active, hein, on pourrait en parler pendant longtemps. Là, à ce moment-là, en faisant ça, on crée ce petit périmètre de sécurité là, et la personne là, devient à l'aise à exprimer comment elle se sent et peut-être que là, à ce moment-là, on est capable d'apporter de l'aide. Alors, le non-jugement est absolument essentiel. Essentiel.
Yeah. Bon, je t'écoute, chérie.
No, I just want to. I'm just clapping for Chantal. and again, I think, you know, recognizing that maybe we're hardwired to judge. So practicing, you know, reserving and withholding. Recognizing, I think, Chantal, you said that our mind is a muscle. So it's something that we can practice. And then it becomes a lot easier. But it is a key condition to create safety with other people. And today, more than ever before, we need to create safe others so that we can connect and share. And that'll blow apart a lot of that stigma that we started talking about when I remembered the question. I mean, when Julie told me the question.
Mais ça m'amène justement à vous demander quelque chose, justement. Si, admettons, même si on pratique l'écoute active puis que je suis prête à recevoir, mais que je vois que la personne est quand même hésitante, peut-être justement à cause des stigmas, comme on disait tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on peut partir une conversation difficile comme ça pour aborder ça avec les gens?
Yeah, and you know, another sort of to explore that a little bit further is that we humans are hardwired to connect. Like we are, so, and we don't have the skills to do it. And so it becomes a bit of a mess sometimes. I say sometimes. So there's a lot of great connections and conversations and relationships out there. But sometimes when they start to fall apart, we just wonder why. And because they're so important to us, we may need to learn a few more of the skills and some of the knowledge around the interactions. I had a conversation on the weekend and we were talking about this stuff, about how do you create safe others? And their reaction to me was, oh, I don't want to be politically correct all the time. And I was like, but that's not the point. You do have to mind your words a little bit in order to create safety for other people in terms of not further damaging them or yourself. I don't know if you have any thoughts on that one, Chantal, but I don't know if that's come up for you.
Ah oui, oui, absolument. Puis je veux juste revenir à quand on disait, tu sais, on disait, ben, faut se donner un break, faut donner un break aux autres aussi. Tu sais, moi, je pense que le matin, là, il n'y a pas personne qui se lève puis qui dit, moi, aujourd'hui, là, non, je vais, je décide de ne pas bien aller, je décide de juger tout le monde, je décide de ne pas faire mon best. Everyone are giving their best. Tu sais, tout le monde fait son possible. Alors, comme tu disais, Sherry, il faut vraiment retenir ça. T'sais, moi, je fais mon possible, ben, l'autre aussi fait son possible. Alors, si je me donne un break, je vais lui donner un break aussi. Puis ça se traduit en écoutant simplement et en utilisant des phrases qui commencent par « je », en rassurant la personne, en lui démontrant qu'on est en train qu'on entend qu'est-ce qu'elle nous dit. Des fois, ça peut être en utilisant des petites techniques comme de répéter ce qu'elle vient de nous dire ou de valider ce qu'elle vient de nous dire, de dire « si je comprends bien, tu te sens comme ça à cause de ça ». Donc, ça, c'est un point que je voulais faire. L'autre point que je voulais apporter, parce que tu disais comment est-ce qu'on peut commencer la conversation, tu peux simplement dire, je m'inquiète pour toi. J'ai remarqué que, me semble, il y a des changements. J'ai remarqué que tu as l'air déprimé. Aimerais-tu en parler? Ça peut être juste ça aussi, de juste poser des questions. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on... J'ai lu une petite phrase, puis je l'ai écrite, puis je vais vous la lire telle qu'elle. C'est « On ne peut pas forcer une personne à écouter un message qu'elle n'est pas prête à recevoir. Mais on ne doit jamais sous-estimer le pouvoir d'avoir planté une graine.
Yeah. »
OK? Alors, des fois, on a l'impression qu'on n'est pas bonne à écouter ou ça ne sert à rien d'offrir notre aide ou quoi que ce soit, mais... Juste des fois de dire à l'autre, « Mon Dieu, j'ai remarqué que tu n'as pas l'air affilé. Je suis là si tu as le goût d'en parler. » Ouh! Ça peut faire du chemin.
I think that's so important. And then I'm just going to touch on what you said about we can't force people to, you know, put their hand up for care and attention. We have to meet them on their own terms. And that can be very frustrating. And, you know, and this is all, I guess, some of the information in that mental health first aid course and the new crisis course that's 2 hours free of charge that's out there. Is that, yeah, we meet them on their own terms. We support them until there's a crisis. And when there's a crisis, then we, you know, I think it's really important that everybody recognize you do need to reach out for that help and care for that person. And crisis could be, you know, when we talked, you started off, Chantal, with the mental health continuum, green, where people are doing well, all the way to red. It's when people are in the red and they need that care and attention. And I guess maybe I'll also add, because we humans are so interesting, we are so resilient, and we will cope. We will cope. And we actually won't oftentimes really notice, feel, or connect with a challenge, a mental health challenge that we're experiencing. And so sometimes it does take other people to safely engage them in a conversation to say, yeah, like you said, Chantal, eye language, so that, you know, you can say, I've noticed that things aren't going well, or that you've been tired or angry lately. Do you want to talk about it? So I just wanted to reiterate some of the stuff that you said, and then add, you know, if somebody's in crisis, do reach out for that care and attention immediately.
Mm-hmm. Puis, ce que j'adore ce que vous dites toutes les deux, mais ça me fait penser, mais surtout aussi souvent, là, on vient de parler des gens en général, comment aborder, mais pour nos aînés, souvent, leur génération aussi, c'est pas commun pour eux de s'ouvrir et de parler ouvertement de ces choses-là. Donc, est-ce qu'il y a des techniques ou des moyens différents pour aider nos aînés à être capables de nous parler s'ils ont quelque chose comme ça?
Bien, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher leur expérience de vie. Moi, ce que j'aime faire, c'est commencer la discussion en parlant de moi. Pas dans le sens que je vais commencer par m'ouvrir moi-même. Et là, j'aimerais avoir un exemple concret à vous donner, mais j'en ai pas. Malheureusement, peut-être ça viendra, mais de commencer la conversation en disant, tu sais, moi, j'ai fait des recherches, j'ai lu telle affaire, j'ai remarqué ça. Avez-vous déjà vécu ça, vous, dans votre vie, dans votre expérience de vie? Comment vous voyez ça, vous? Puis, commencez cette conversation-là, puis tranquillement, pas vite, la personne, l'aînée peut, encore là, quand on est capable de créer notre petit périmètre là, de sécurité, que la personne va sentir qu'on n'est pas là pour la juger. Quand on va chercher dans leur expérience de vie, là, je pense qu'on est capable d'aller allumer une petite lumière. Là. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, là, mais ça, c'est un peu mon expérience à moi. Là.
Yeah, you know, it's interesting. We did talk about children, and then what about, you know, on the other end of the spectrum, older individuals, people that need the support and care, maybe more now than ever. I was walking yesterday, and there's an older gentleman there, and the way we operate right now is we try and keep physical distance, and I wasn't sure if he was going to talk or not, so my eyes went down, but he wanted to talk, and so I asked him. I said, "How are you doing?" And he said, I don't like this one bit. I can't see my family. I can't connect with people. So we chatted for about 15 minutes. And what he wanted was some companionship. He wanted to connect with someone in a way that was not just dropping off food, and he needed some care and attention. So I think what maybe the idea is we humans throughout every age and stage of our lives, you know, need to feel seen, heard, and understood. We do need our basic needs met, but we also need this ability and opportunity to connect in a really safe way. So I think companionship is probably something that we can do. Trying to help relieve some of the uncertainty and anxiety. I know that there's a lot of long-term care facilities where things are really challenging right now. So reaching out to the best of your ability and providing that safe companionship, I think, is really huge.
Merci beaucoup, Chérie. Je vois le temps qui file. Donc, j'aimerais vous poser une dernière petite question. À la lumière de tout ce que vous venez de nous dire, croyez-vous justement que la pandémie actuelle va nous donner l'occasion d'acquérir des nouvelles compétences pour accepter nos émotions, tolérer la détresse et aller de l'avant avec l'assurance, même si on ne sait pas ce qui nous attend?
Je le souhaite grandement. Je pense qu'il va y avoir des fluctuations dans ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est-à-dire que je pense que l'être humain, à la base, souvent, quand on n'est pas trop sûr comment agir, on va dans les extrêmes. Hein? On a vu ça au cours de l'histoire. Là, donc, les gens vont peut-être adopter des comportements, des pensées extrêmes et tranquillement pas vite, excusez-moi, tranquillement pas vite, on va trouver un équilibre. Enfin, je l'espère. Mais oui, je pense qu'il y a... C'est un peu drôle parce qu'on est dans un temps où on ne peut pas se voir physiquement, mais on a accès à une tonne de ressources. On n'a jamais eu autant de ressources dans le fond. Donc, j'espère que oui, les gens prendront le temps de faire des petites recherches, puis de regarder les options qu'ils ont, de regarder les ressources, d'aller lire qu'est-ce qui se passe et puis de pouvoir trouver leur compte là-dedans.
Sherry?
So I'm just making sure that, again, that I understand the question. So it's sort of what, after this pandemic, sort of what are our hopes? Is that sort of right? Did I get that right, Julie?
Well, it was mostly, do you think it will allow us to acquire like new competencies to accept our emotion, how to tolerate everything that's going on, and even if we don't have any assurance of the future holds.
Yeah. Thank you for that. Going forward, I don't know what the absolute outcome is. There is so much uncertainty, but what I do hope for individuals and our collective, like families, communities, is that we're taking this as a bit of an opportunity to sort of to pause a bit, to check in with ourselves and each other, and to focus on things that are really important. This whole idea of work-life balance, which I think is, I don't like the way that that concept conjures up images in my head of having two distinct lives that you're trying to balance between itself. It's one list of things that are a priority or they are not. And I'm hoping that at the end of it, we recognize what our real priorities are. And I'm hoping that it connects really significantly to a healthy you, so mentally and physically healthy. So I do hope that we take an opportunity to pause for ourselves and for the people around us. I don't know if that answers the question, but...
No, I love it. It's great. And I just hope it will hopefully make a change in our society.
I hope so.
Because we focus too much on material, eh?
We do, you know. Go ahead. Look at us, like, wow! Go ahead.
D'une manière comme d'une autre, on sait que ça va être différent. Déjà, la vie est différente. Il va avoir vraiment eu une espèce de switch, je m'excuse de l'expression, mais il y a la vie avant COVID et la vie après COVID. Et puis, nous, ben, on va continuer à travailler très fort pour que la vie après COVID, justement, soit empreinte de bienveillance et d'amour et de compréhension et de non-jugement pour que les gens se puissent bien naviguer dans cette situation-là puis s'en sortir fort et résilient, plus que jamais.
Je ne peux pas dire mieux.
And I guess maybe as a final sort of note as well, again, we humans are very resilient and we have such capacity for many things. I just hope that we direct our energy to the things that are the most meaningful, that we can grow, that we can thrive. But we do need to know some of the skills and knowledge to support ourselves and support other people. But we are amazing. And so on a positive note, I do hope that this helps us with growth collectively.
Merci. Autre petit ajout avant qu'on se laisse?
Moi, ce que je veux dire à tout le monde, c'est oubliez pas que c'est temporaire. Puis ça, je pense que c'est une phrase qu'il faut se répéter, puis c'est important de le répéter à nos enfants puis à nos adolescents. Nous vivons une situation temporaire et en ce moment, nous avons des réactions normales à une situation tout à fait anormale. Alors, donnons-nous la chance d'évoluer là-dedans et d'accepter qu'il y a des mauvaises journées, puis que peut-être qu'on ressortira pas tous de la pandémie avec deux langues de plus, puis apprendre à jouer le piano, puis à tout le kit. Peut-être qu'on va juste sortir de la pandémie encore là. Peut-être c'est juste ça. Alors, mais rappelons-nous que c'est temporaire, puis... On est fort. Comme Sherry dit, l'être humain est tellement extraordinaire. Nous avons des forces à l'intérieur de nous qu'on sous-estime. Et on va être capable de passer à travers tout ça. Absolument.
Well said, Chantal. Well said.
Puis comme Chantal, tu disais tantôt, justement, fais toujours de ton mieux. Hein? Le quatrième accord Toltec, on l'oublie souvent. Donc, si on a conscience, on sait qu'on... On fait toujours de notre mieux, sachant très bien que de jour en jour, notre mieux fluctue si on se sent bien, si on a bien dormi ou pas. Ça change toujours. Non, mais si on se dit, bon, je fais toujours de mon mieux, déjà là, ça va mieux.
Absolument. Yeah. Très bien dit. Yeah.
Donc, je vous remercie énormément, Chantal et Sherry, d'avoir participé à ce podcast. Je pense qu'on aurait pu en parler encore pendant une heure et demie de plus, la santé mentale. Merci aussi à tout le monde d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Merci énormément à l'ACFOMI et Patrimoine Canada d'avoir rendu cette diffusion possible. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et merci beaucoup.
Thank you. Merci.
Merci.
Thank you for listening to One City, Two Realities, Une Ville, Deux Réalités, brought to you by ACFOMI, l'Association canadienne française de l'Ontario, Conseil régional des Mille Îles, and produced by Titan Sound in Kingston. Music composed by Elizabeth Santos. ACFOMI souhaite remercier gracieusement Patrimoine Canada, the Kingston Frontenac Public Library, nos partenaires médias, nos commanditaires et nos invités spéciaux. Visit acfomi.ca for the latest information on our podcast series, as well as all the bilingual events happening in the Kingston and Thousand Islands region.